Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat et nous parlerons tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle et l'opposition entend bien peser de tout son poids pour tenter d'obtenir des réformes électorales qu'elle juge indispensables pour un scrutin transparent, inclusif et non violent. Hier, 25 partis ont annoncé la création d'une alliance baptisée la Coalition pour l'alternance pacifique. Principale revendication, l'ouverture d'un dialogue politique avec le gouvernement en vue de réformer notamment le code électoral et la commission électorale. Alors que vous inspire cette initiative? L'opposition sera-t-elle entendue à 7 mois de cette élection? Dans quel état d'esprit êtes-vous? RFI vous donne la parole, comme tous les jours d'ailleurs. Vous nous appelez, vous êtes les bienvenus, on vous attend. 33 9 693 693 70 et vos commentaires sur nos réseaux sociaux comme tous les matins. J'en lirai évidemment quelques-uns pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié pour mieux comprendre l'actualité. Ce sont vos questions aux experts, aux journalistes, aux envoyés spéciaux, correspondants de RFI. On est en direct. Et pour commencer, Brahim est avec nous. Il est au Tchad. Bonjour Brahim, soyez le bienvenu.
Bonjour RFI, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous. Vous avez des questions sur la guerre au Soudan et les accusations de Khartoum contre les Émirats Arabes Unis.
Oui, effectivement. Les autorités soudanaises ont porté plainte devant la Cour internationale de justice contre les Émirats arabes unis qu'elle accuse de génocide. Quels sont les arguments du Soudan et comment réagissent les Émirats?
Oui, Khartoum accuse Abu Dhabi de violer la Convention sur le génocide. Bonjour Stéphanie Maupa.
Bonjour Juan.
Correspondante de RFI à La Haye, où se trouve le siège de la Cour internationale de justice, la plus haute instance judiciaire de l'ONU. Stéphanie, quels sont les arguments du Soudan?
Bien, le Soudan dénonce le soutien des Émirats arabes unis aux forces de soutien rapide. Khartoum accuse les paramilitaires du général Hamdan Daglo de commettre un génocide contre les Soudanais d'ethnie massalite dans l'ouest du Darfour. Vous savez, c'est un territoire que contrôlent les forces de soutien rapide. Alors, les accusations du Soudan, elles s'étendent aussi aux autres crimes dont seraient responsables les paramilitaires. Des crimes commis notamment à Khartoum et ailleurs en 2023, des actes de viol, de déplacement forcé, de vandalisme, de meurtre, tous ces actes, et c'est ce qu'avance Khartoum, tous ces actes n'auraient pas été possibles sans le soutien des Émirats Arabes Unis. Le Soudan tente de démontrer qu'en soutenant les forces de soutien rapide, Abu Dhabi violerait donc la Convention sur le génocide, un génocide dont il serait complice.
Donc pour Khartoum, les Émirats Arabes Unis alimentent clairement la rébellion.
Oui, et leur soutien est total, dit encore le Soudan, un soutien militaire, politique et financier que Khartoum détaille dans sa requête de 9 pages. Selon le Soudan, les Émirats ont envoyé leurs agents pour diriger les forces rebelles. Une partie des communications politiques et des opérations serait gérée depuis les Émirats. Ils auraient aussi fourni aux paramilitaires un soutien financier important et ce n'est pas fini. Ils auraient aussi recruté, formé des milliers des mercenaires venant des pays voisins du Sahel, voire même de Colombie, qui auraient ensuite été envoyé combattre au Soudan. Enfin, Abu Dhabi aurait envoyé des cargaisons d'armes et d'équipements, y compris des drones de combat. Voilà donc l'essentiel des accusations qui sont formulées par Khartoum.
Et comment réagissent les Émirats à ces accusations?
Alors pour l'instant, la réponse des Émirats à la Cour elle-même n'est pas publique. On ne connaît pas leurs arguments juridiques, mais contacté par RFI, le ministère des Affaires étrangères accuse Khartoum en retour. Il dénonce, je cite, un coup de publicité cynique destiné à détourner l'attention de la responsabilité des forces régulières soudanaises dans les atrocités en cours. Abu Dhabi ne mâche pas ses mots. Les Émirats voient dans l'initiative de Khartoum une tentative pitoyable d'instrumentalisation de la Cour et estiment que le Soudan devrait au contraire s'engager pour la paix plutôt que tenter de faire diversion. Pour les Émirats, la démarche, la plainte devant la CIJ n'absout pas le Soudan de sa responsabilité dans la situation humanitaire du pays. Ils estiment que les deux parties au conflit, les forces de soutien rapide et le gouvernement en place, devraient répondre de leurs actes. Si les juges organisent des audiences, les Émirats arabes unis y participeront pour tenter d'obtenir la clôture de cette affaire.
Affaire à suivre, bien évidemment. Stéphanie Maupas, restez avec nous. Brahim a une dernière question à vous poser.
Si la Cour internationale de justice se déclare compétente, que risque Abu Dhabi ?
Ah, bonne question. Stéphanie Maupas, vous qui connaissez bien la mécanique de la justice internationale, le fonctionnement justement de la CIJ, quelles peuvent être les prochaines étapes ?
Alors, il faudrait déjà que les juges se déclarent compétents. La procédure ensuite se déroulerait en deux temps. D'abord, des mesures d'urgence, puisqu'elles ont été demandées par le Soudan. Des audiences pourraient se tenir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Khartoum demande aux juges d'ordonner rapidement à Abu Dhabi d'empêcher les forces de soutien rapide de commettre des actes génocidaires. C'est une première étape. Si les juges tranchent sur cette question, et s'ils se déclarent toujours compétents, alors ils se pencheront ensuite sur le fond de cette affaire, la question du génocide. Il faudra que Khartoum prouve ses allégations. Et si, pour finir, les juges devaient trancher contre Abu Dhabi, eh bien, il est très probable qu'ils ordonnent des réparations. Mais ça, Johan, c'est une étape qui paraît bien lointaine aujourd'hui.
Merci infiniment, Stéphanie Maupas, en direct de La Haye. Brahim, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci beaucoup.
Bonne journée. Merci de nous écouter à N'Djamena, dans la capitale tchadienne, où il est 9h et bientôt 17 minutes, comme à Paris d'ailleurs. Vous nous appelez, sinon vous pouvez également nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas sur Facebook de nous envoyer en message privé votre numéro de téléphone. Je vois encore certains d'entre vous poster publiquement le numéro de téléphone. Ce sont vos coordonnées personnelles. Elles doivent rester évidemment confidentielles, donc vous nous les envoyez en message privé. Et comme tous les matins, l'équipe se fera un plaisir de vous rappeler. Dans 5 petites minutes à peine, nous prendrons des questions sur Samuel Eto'o. Journée importante demain pour le patron du football camerounais. Mais d'abord, des questions sur la Syrie. La Syrie confrontée depuis un peu moins d'une semaine aux pires violences depuis la chute de Bachar el-Assad. Bonjour Adam.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour la radio de l'Europe et du monde.
Merci de nous écouter, soyez le bienvenu. Quelles sont vos questions Adam ?
En Syrie, des massacres ont provoqué la mort de centaines d'Alaouites depuis jeudi dernier. Mmh. Alors, j'ai des questions. Pourquoi les Alaouites sont-ils autant persécutés depuis le départ de Bachar al-Assad ?
Alors, vous parlez de centaines de civils Alaouites tués. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les affrontements ont fait 1500 morts, dont un millier de civils, majoritairement effectivement des Alaouites. Bonjour Thomas Piret.
Bonjour.
Chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, spécialiste de la Syrie, aidez-nous à comprendre ce qui se passe en ce moment dans le nord-ouest du pays. Ce sont les violences les plus terribles depuis la chute de Bachar al-Assad, je le disais en préambule, des violences imputées aux forces de sécurité du nouveau régime. Pourquoi les Syriens de confession alaouite sont-ils persécutés ? Thierry Piret, êtes-vous avec nous ? Ah, visiblement, on a un petit souci. Êtes-vous là ? Bon, on va essayer de rétablir la liaison téléphonique, bien évidemment, dans un instant.
Allô ?
Vous êtes là, pardon, excusez-nous.
Oui.
On vous entend maintenant.
Pardon.
Expliquez-nous, oui, pourquoi les Alaouites sont-ils persécutés depuis maintenant près d'une semaine ?
Bon, eh bien, donc, peut-être rappeler que, brièvement, que l'ancien président dictateur Bachar el-Assad, qui a été renversé en décembre, venait de cette communauté alaouite, que, comme son père, il avait recruté la grande majorité des officiers de son armée et de ses services de renseignement parmi les alaouites, et que pendant la guerre qui a commencé en 2011, il a aussi recruté pas mal de combattants, de paramilitaires parmi les alaouites qui se sont souvent rendus coupables d'atrocités, notamment dans les régions où il y a aujourd'hui des violences. Alors ce qui s'est passé depuis une semaine, c'est que des éléments armés nostalgiques de l'ancien régime qui s'étaient réfugiés dans les montagnes de la région alaouite après la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier, alors qui depuis lors avaient mené quelques attaques contre les forces de l'ordre, mais à une échelle relativement petite, jeudi dernier, ils ont lancé une grande attaque coordonnée sur plusieurs sites simultanément qui a conduit à la mort de plusieurs dizaines de membres des forces de l'ordre. suite à quoi il y a eu une, on va dire, une mobilisation générale de troupes loyales au nouveau pouvoir dans la région, mais aussi venues d'autres provinces de Syrie. Et certaines de ces unités qui ont été rappelées en renfort se sont donc rendues coupables de massacres contre la population alaouite.
Officiellement, il s'agissait de traquer justement les pro-Bachar el-Assad, de traquer les milices de Bachar el-Assad. Visiblement, le nouveau pouvoir et les forces envoyées sur le terrain s'en sont pris aux civils. Près d'un millier de civils alaouites tués en quelques jours. Il y avait quoi derrière tout ça ? Une volonté de vengeance ?
Oui, mais je pense qu'elle se situe plutôt au niveau, on va dire, des combattants sur le terrain que d'un ordre qui serait venu d'en haut. En ce sens que ce qui s'est produit ces derniers jours n'est pas vraiment dans l'intérêt du nouveau pouvoir qui, d'une part, essaye de donner une bonne image internationale pour obtenir la levée des sanctions et, deuxièmement, qui essayait de contenir cette insurrection alaouite dans les montagnes. Et ce qui est à craindre, c'est que les massacres qui viennent de se produire, en fait, ne permettent aux rebelles alaouites de mobiliser plus facilement parmi une population qui ne leur était pas très favorable, semble-t-il.
Voilà. Ouais. Thomas Pierret, Adam a une dernière question à vous poser. Allez-y, Adam.
Que compte faire des nouvelles autorités syriennes pour arrêter ces bains de sang ?
Alors, Thomas Pierret, vous le disiez, effectivement, pour les autorités syriennes, ces dérapages, ces violences meurtrières mettent à mal l'image du nouveau pouvoir sur la scène internationale. Le président par intérim a promis une enquête indépendante sur ces violences. Vous y croyez ?
Alors, il a nommé une commission d'enquête composée de 7 membres. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur les 7, il n'y en a qu'une qui semble vraiment proche de son mouvement politique, hein, HTS. Les autres sont des figures, enfin d'autres organisations politiques qui sont a priori pas spécialement proches du président. Alors, est-ce qu'elles pourront travailler de manière réellement indépendante ? Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est le signe qui a voulu être envoyé. Et puis, il y a une deuxième commission qui a été nommée, alors non pas pour enquêter, mais pour une espèce de comité de médiation qui est chargé de rétablir la paix civile dans les régions touchées par ces violences et qui est alors composé de 2 figures sunnites et d'un alaouite, donc qui est un conseiller personnel du nouveau président. Et ces 3 personnages sont censés donc mener des médiations pour rétablir le calme.
Sur le terrain, quelle est la situation ce matin ? Hier, les nouvelles autorités ont annoncé la fin de ce qu'elles appellent l'opération militaire.
Alors en tout cas, les éléments, bon, je pense que d'abord les massacres ont cessé pour l'instant. Les éléments rebelles, donc nostalgiques de l'ancien régime, ont été chassés des villes où ils avaient essayé de s'implanter lors de leur opération de jeudi dernier. Ils ont été renvoyés dans les montagnes. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'ils ont été éliminés. On peut s'attendre à ce qu'ils mettent de nouvelles actions depuis leur refuge dans la montagne.
Merci infiniment Thierry Pierret, chargé de recherche à l'Institut de Recherche et d'Études sur le Monde Arabe et Musulman. Adam, bonne journée, merci de votre fidélité. Je vous le disais juste avant d'accueillir Adam que nous avons des questions ce matin sur Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise de Football. Antoine Grenier du service des sports de RFI vient de nous rejoindre. Bonjour Antoine.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Et on accueille Henri qui est à Douala au Cameroun. Bonjour Henri.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Nous vous écoutons.
Oui, effectivement, Juan, le TAS, le tribunal arbitral du sport, a finalement autorisé Samuel Eto'o à se présenter à l'élection du comité exécutif de la CAF. Comment le TAS explique ce choix de revenir sur la décision de la CAF qui avait rejeté sa candidature ?
Ah, c'est vrai que sa candidature avait été rejetée, mais il y a quelques jours, le tribunal arbitral du sport a donc ordonné à la Confédération africaine d'intégrer Samuel Eto'o sur la liste des prétendants. Expliquez-nous, Antoine Grenier.
Ben, c'est la fin d'un très très long feuilleton et le début d'une sacrée aventure, c'est-à-dire que oui, le tribunal arbitral du sport ne motive pas ses décisions point par point en expliquant pourquoi il a décidé telle ou telle chose. Ce qu'on sait, c'est que dans son arrêté, il a simplement considéré qu'il avait en sa possession suffisamment d'éléments pour annuler la décision du comité exécutif de la CAF qui avait statué sur l'inéligibilité de Samuel Eto'o. Alors pourquoi il avait pris cette décision, le comité exécutif? Parce que Samuel Eto'o, il avait été condamné en juillet 2024 à payer une amende assez lourde, hein, de $200,000 pour un manquement à l'éthique en raison d'un contrat qu'il avait signé avec une entreprise de paris sportifs alors qu'il était président de la Fédération camerounaise de football. Donc la CAF lui avait tapé sur les doigts à ce moment-là. Et suite à cette condamnation, le jury disciplinaire qui est chargé d'étudier les candidatures des membres du, enfin les candidats au comité exécutif avait déclaré que Samuel Eto'o était inéligible. Donc à cause de cette précédente condamnation, ce qu'on peut remarquer en fait, c'est que la décision du tribunal arbitral du sport, non seulement elle requalifie Eto'o pour l'élection au comité exécutif, mais en plus elle a totalement inversé la décision de la Confédération africaine, c'est-à-dire que la CAF, elle a ainsi été condamnée à couvrir tous les frais d'arbitrage, donc et à verser 8000 francs suisses à Samuel Eto'o.
5 millions de francs CFA.
Ce qui est une somme
conséquente.
Mine
pour rembourser
de rien,
notamment les frais d'avocat.
Entre autres, et les avocats de Samuel Eto'o, ils avaient dans leurs appels et dans leurs différentes interventions, dans leurs communiqués, pointé que les organes de la Confédération africaine de football qui avaient statué sur le cas de Samuel Eto'o, en fait, n'étaient tout simplement pas compétents pour le faire. Est-ce que c'est ce qui a motivé la décision du tribunal arbitral du sport? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les avocats de Samuel Eto'o ont obtenu gain de cause et que le président de la FECAFOOT va pouvoir se présenter à l'élection.
Demain,
au Caire.
Voilà, élection au comité exécutif de la CAF qui se tiendra donc demain. Vous avez d'autres questions, Henri? Profitez-en, Antoine Grenier.
Effectivement, Juan, je voudrais donc savoir quelles sont les chances de Samuel Eto'o d'être élu et est-ce que cela pourra le rapprocher d'une future élection à la tête de la CAF?
Chance de Samuel Eto'o d'être élu demain. Avez-vous la boule de cristal, mon cher Antoine?
Si j'en avais une seulement. Non, ce qu'on peut dire, c'est que si, comme on a pu le lire, les candidatures sur la zone de Samuel Eto'o, qui est la zone Unifac, les candidatures de Sedoum Bombo-Joya, qui est le candidat sortant, la candidature du président de la Fédération congolaise et celle du président de la Fédération centrafricaine, qui aurait transmis son dossier hors délai, si effectivement toutes ces candidatures-là, elles ont été invalidées, parce qu'on n'a pas la liste exacte des candidats, mais si, comme on a pu le lire, les candidatures n'ont pas été validées, il n'y a que celle de Samuel Eto'o, donc il est seul candidat, donc a priori il va être élu, il pourrait être élu par acclamation, donc sans concurrent demain au Caire, donc être membre du comité exécutif de la CAF.
Et donc pourquoi pas à terme vice-président de la CAF?
Vice-président, c'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il va être élu à la place. S'il est élu, effectivement par acclamation, comme je le disais, il va remplacer Sedoum Bombo-Joya, qui est quatrième vice-président, mais c'est pas automatique, c'est-à-dire que ça ne fait pas de lui automatiquement un vice-président, puisque selon l'article 22 alinéa 4 des statuts de la Confédération africaine de football,
c'est très précis.
Et après chaque assemblée générale élective, le comité exécutif, sur proposition du président de la CAF, nomme parmi ses membres un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième vice-président. Donc là, Samuel Eto'o, il va falloir qu'il fasse un petit peu de politique et ça fait partie des points, des questions qui vont se poser. Est-ce qu'il va réussir à convaincre les membres du comité exécutif et le président de la CAF, qu'il a rencontré d'ailleurs récemment à Johannesburg, de le nommer vice-président? Ça, c'est une des questions qui se pose, parce que c'est une personnalité, mine de rien, qui est assez clivante. Hein. C'est une sorte d'électron libre qui est un peu vu parfois comme un empêcheur de diriger en rond, Samuel Eto'o.
Ce qui est sûr, c'est qu'il vise quand même la présidence de la Confédération africaine.
Disons qu'à
moins dans 4 ans.
Moyen ou très court terme, il vise un poste de vice-président qui serait pour lui une sorte de marchepied vers, effectivement, pourquoi pas, dans 4 ou 8 ans selon le moment où une élection serait organisée et le poste vacant, pourquoi pas un poste à la présidence de la CAF. Il a une ambition qui est assez démesurée et surtout, on le voit, c'est un bulldozer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'arrête. Même quand sa candidature est invalidée, il entame une bataille juridique. Là, il l'a gagnée, en l'occurrence, donc c'est quelqu'un qui avance et qui, effectivement, en plus, il est tout jeune, hein. Il a fêté hier ses 44 ans, Samuel Eto'o, donc le temps joue pour lui.
Il a le temps, oui.
Et il met en place de plus en plus de choses pour assouvir cette ambition.
En tout cas, ce qui est sûr, puisqu'on parle de la présidence de la Confédération africaine de football, c'est que demain, Patrice Motsepe sera reconduit.
Il est seul candidat au poste de président de la CAF, donc a priori, pas de suspense de ce point de vue-là.
Henri, a-t-on répondu à vos questions ?
Parfaitement, surtout l'éclairage d'Antoine qui était magnifique.
Ah, comme d'habitude.
Ça, c'est gentil.
Il est en train de rougir, Antoine Grenier, pour ceux qui ne nous suivent pas en images sur YouTube. Merci Henri de vos encouragements. À très vite, Antoine Grenier, journaliste au service des sports de RFI. Reste avec nous, on va marquer une petite pause, 10 minutes. On va retrouver l'ensemble du service Afrique pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite après pour notre débat du jour. La Côte d'Ivoire à 7 mois de la présidentielle et l'opposition qui se mobilise.